pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi Garcia Marquez cette semaine, 100 ans de solitude. Voici donc la première phrase du roman. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. 100 ans de solitude, donc, de Gabriel Garcia Marquez, chef-d'œuvre de la littérature, publié en 1967, à lire ou à relire. Des romans et éventuellement des chefs-d'œuvre, nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission tout à l'heure. Et puis Victor Dolande sera là lui aussi avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
On vous en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le premier prix littéraire Europe 1 GMF a été décerné mercredi. Il y avait 5 romans sélectionnés. C'est finalement Karl Aderholt qui l'a emporté pour Le Théâtre des Nuits chez Stock. Et il est donc logiquement mon invité cette semaine dans La Voix est libre. Bonjour Karl Aderholt.
Bonjour Nicolas.
C'est toujours un peu idiot de poser la question, mais la question, vous êtes content, un écrivain qui vient de recevoir un prix, évidemment que vous êtes content, sans doute, mais quand même, c'est important, non, pour un écrivain d'avoir une forme de reconnaissance autre que le nombre de ventes, bien sûr.
Tout à fait, c'est très très important, et ce prix m'a beaucoup touché, parce que quand on travaille pendant des années tout seul dans son coin, et que tout d'un coup, on se voit reconnu par un jury, ça donne à la fois de l'énergie et de la satisfaction du travail bien accompli.
Alors, Le Théâtre des Nuits, je raconte quand même, c'est l'histoire de Blanche Beaulieu, une comédienne à Paris, on est en 1916. Elle essaye d'être actrice, mais les temps sont durs, c'est la guerre. Elle vit plutôt des petites arnaques de son compagnon Victor, qui est un sale type, un malfrat. Mais un jour, un metteur en scène, un dramaturge, propose à Blanche de l'accompagner avec d'autres comédiens sur le front pour divertir les soldats. Elle y va, elle y rencontrera notamment Sarah Bernhardt, qui a réellement joué devant les soldats pendant la Grande Guerre. Et c'est ça le grand intérêt, entre autres, notamment de ce roman. Vous avez une formation d'historien, Karl Aderholt, et vous mêlez votre fiction à l'histoire. Dumas disait « L'histoire est un clou sur lequel j'accroche mes romans ». Est-ce que vous reprenez cette citation à votre compte ?
Ah oui, complètement. Alexandre Dumas est un de mes grands inspirateurs, un de mes maîtres, si je puis dire comme ça. Effectivement, l'histoire recèle des milliers d'histoires. Et il suffit de se plonger dedans et de se bien se caler, je dirais, sur les événements qui se sont passés pour en tirer quelque chose d'extrêmement romanesque.
Mais c'est assez compliqué, cet exercice, quand même, de caler ces personnages dans le décor de l'histoire. Il y a un dosage très, très précis à faire pour pas qu'on sente les archives, c'est-à-dire que c'est un peu l'écueil de certains romans historiques, c'est-à-dire qu'on sent, on attend presque la note de bas de page qui nous dit où l'archive a été trouvée, à quelle cote, aux archives nationales, dans quel rayon, etc. Ça ne se sent pas du tout dans ce livre-là, mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez quand vous écrivez un roman historique ?
Bien sûr, parce que moi, c'est pas mon premier roman, donc c'est mon cinquième, et étant de formation historien, naturellement, je dirais, j'étais porté vers le roman historique. Et de fait, j'ai rechigné pendant longtemps, justement parce que j'avais l'impression que j'arriverais pas à ce que ça fasse bon ménage. Et donc, ça a été vraiment un grand travail. En fait, le sujet m'a plu et m'a saisi parce qu'il y avait justement cette marge de romanesque à l'intérieur même du sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand Sarah Bernhardt fait une tournée, c'est romanesque. Et donc, ça permet de prendre ses distances avec l'histoire.
Et oui, d'ailleurs, Sarah Bernhardt, on ne va pas tout déflorer, mais il faut qu'on en parle quand même. Elle a vraiment été sur le front pendant la Grande Guerre. Et il y a la rencontre entre Blanche et Sarah Bernhardt avec un échange de bons mots. Et c'est vrai qu'on reconnaît le style Sarah Bernhardt. Je ne sais plus ce qu'elle lui dit, mais elle vient de se faire amputer et elle lui dit « Vous avez quelque chose que je n'aurai plus jamais. » Voilà. Et donc l'autre se dit « Merde, elle me parle de sa jambe. » Et Sarah Bernhardt laisse un petit peu de temps et elle dit « La jeunesse. » Et l'autre, ouais. Blanche, qui ne se laisse pas démonter, lui répond « Vous avez quelque chose que je n'aurai peut-être jamais. Le génie. » Ça aurait pu être un vrai dialogue. Vous l'avez trouvé dans les archives, ce truc-là, ou c'est vous qui l'avez inventé?
Non, ça fait partie de l'invention. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu tout à fait dire ça. Mais, c'est-à-dire que Sarah Bernhardt, quand elle va au front, donc elle relève d'une opération qui est amputée d'une jambe, et elle vient vraiment avec une volonté patriotique. Elle déclare partout qu'elle va tuer du Boche, elle veut monter en première ligne, elle veut qu'on lui donne un fusil. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, on dirait qu'elle cabotine, elle en fait trop. Et c'est extraordinaire parce qu'elle a un tel pouvoir, notamment avec sa voix, qu'elle enthousiasme tout le monde et que tous les poilus l'adorent, quoi, alors qu'ils ne la connaissent pas, parce que la plupart n'ont jamais été au théâtre, et qu'en plus de ça, elle leur fait vraiment du discours patriotique, ce qu'ils ne supportent plus après déjà 2 années de guerre. Mais ce n'est pas grave, elle a une telle magie, on va dire, en elle, et un tel sens de la mise en scène de sa propre personne, qu'elle arrive à séduire tout le monde.
Mais d'ailleurs, comment on fait d'un vrai personnage qui a été aussi romanesque dans sa vie pour l'installer dans un roman ? Sans que ça paraisse trop fou.
Alors ça, c'était sans doute la plus grande difficulté du roman, parce que effectivement, elle est, je dirais, too much. Et donc, ça a été un travail d'essayer, parmi toutes les anecdotes qui ont été sur ce sujet, enfin sur cette période, sur sa visite au front, etc. Il y en a des kyrielles. Enfin, on prétend qu'à un moment donné, elle a été en première ligne et que les Allemands n'ont pas tiré pendant ce temps-là, parce que respectant le génie de Sarah Bernhardt. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'anecdotes. Donc, toute la difficulté est d'arriver à éliminer, j'allais dire, ou atténuer plus exactement, les anecdotes pour arriver à quelque chose qui soit, somme toute, crédible, tout en lui conservant ce côté cabotin.
En vous écoutant, il y a un autre bon mot très célèbre de Sarah Bernhardt qui me revient. C'est une comédienne très prétentieuse qui vient la voir et qui lui dit « Moi, j'ai jamais le trac ». Et Sarah Bernhardt lui répond « Ça vient avec le talent ». C'est bien elle, non ?
Oui, c'est ça. C'est
magnifique.
Tout à fait. Oui. Ben, c'est d'ailleurs, un des moments de mon livre où elle est en rivalité avec Cécile Sorel, qui est la star montante de l'époque, et qui, elle, pareil, surjoue énormément. Et donc, il y a une espèce de rivalité entre les deux femmes. Mais avec, elles ont un tel talent quand même, malgré tout, je dirais qu'elles ne tombent pas dans le ridicule. Elles sont toujours à la limite.
Mais d'ailleurs, il y a un vrai travail sur les personnages de comédiens et de comédiennes, y compris de comédiens d'ailleurs, parce qu'il y a un des personnages qui est donc un des comédiens qui se fait engueuler par le dramaturge parce qu'il n'arrive pas à jouer et qui s'en veut terriblement et qui se trouve sans talent. Et en parlant justement à Blanche, il a un air très sincère en disant qu'il est nul et tout ça. Et Blanche lui dit « Mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut jouer, c'est avec cet air-là, garde-le !» On sent que vous connaissez ce milieu des comédiens.
Oui, bah j'ai grandi dans le milieu des comédiens. J'ai grandi dans l'univers du théâtre.
Parce Vos parents étaient comédiens.
Voilà, mes deux parents étaient comédiens, des comédiens de théâtre, parce que c'est encore différent, j'allais dire, avec le cinéma, des comédiens de théâtre. Et donc, oui, j'ai vécu là-dedans, mais c'est surtout, il y a quelque chose qui est très très compliqué avec les comédiens, c'est qu'on ne sait jamais quand ils sont sincères ou quand ils jouent. Je veux dire, il y a ce mélange perpétuel, et il y a de la sincérité dans leur jeu, et il y a du jeu dans leur sincérité. Et donc, c'est aussi ça que j'ai voulu rendre, c'est-à-dire cette complexité où ils échappent toujours, finalement, au jugement qu'on pourrait porter sur eux.
C'est très compliqué, d'ailleurs, de mettre en scène des comédiens dans un roman. Je veux dire, de faire passer l'idée que là, ce ne sont pas les personnages qui parlent dans la vraie vie, ce sont les personnages qui sont en train de jouer sur scène. Il ne suffit pas de dire « ils sont sur scène et voilà ce qui se passe ». Comment on fait passer des émotions comme ça ? Il n'y a pas de recette, j'imagine. Mais est-ce que c'est une difficulté ?
Oui, c'est une difficulté. Mais là, je me suis appuyé aussi sur le répertoire qu'ils ont joué. Parce que le répertoire qu'ils ont joué aux soldats, c'est pas du tout un répertoire traditionnel, classique. C'est des petites piécettes, souvent des vaudevilles avec des amants dans le placard, etc. Et donc, il y avait un jeu là-dessus. Parce que eux, quand ils sont arrivés devant les soldats, ils se sont rendus compte aussi, d'une certaine manière, du décalage qu'il y avait entre ce qu'ils allaient jouer et les hommes qu'ils avaient en face d'eux. Parce qu'il faut imaginer une salle pleine, avec souvent au premier rang des blessés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui les saisit quand ils... Et donc ils ont essayé aussi d'ajuster un peu, j'allais dire, l'irréalité de ce qu'ils étaient en train de jouer à la réalité qu'ils avaient en face d'eux.
Restez avec nous, Carla Derold, on repart sur le théâtre des opérations et le théâtre des nuits dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre avec le grand gagnant du premier prix littéraire européen GMF, j'ai nommé Karl Aderholt pour le Théâtre des Nuits chez Stock. Vous êtes toujours avec nous, Karl Aderholt. On parlait tout à l'heure donc de cette histoire. Je rappelle quand même, ce sont donc des comédiens qui partent sur le front pendant la Première Guerre mondiale pour jouer devant les soldats, à l'intérieur. Donc l'héroïne, c'est Blanche, et il va y avoir aussi une histoire d'amour, on va y revenir, mais restons un peu sur cette idée que vous avez eue de reprendre cette histoire vraie, de la grande histoire, pour en faire un roman. Il y avait effectivement donc des comédiens qui sont partis sur le front pendant la Première Guerre mondiale, mais je crois qu'il y avait quelques conditions à leur venue.
Oui, tout à fait. Alors c'est la Comédie française qui réussit à instaurer ces tournées au front. Et le grand état-major, qui n'était pas très chaud à l'idée de voir arriver des civils sur le front, a décidé d'imposer trois règles. La première, c'est pas de pièces patriotiques, parce que les soldats n'en pouvaient plus du bourrage de crâne. La seconde, c'est pas de comédiens jeunes, parce que sinon ils auraient dû être sur le front et non pas sur scène. Et la troisième, qui est sans doute la plus difficile à respecter, qui était pas de rencontre et pas de communication entre les comédiennes et les soldats.
Pour des raisons évidentes.
Oui.
Mais effectivement, il y a une histoire d'amour dans le livre. Donc forcément, c'est un roman, il faut briser les règles. Oui. On va y revenir, mais juste avant, je voudrais qu'on parte un peu du front pour revenir à Paris. Parce que c'est là toute la première partie du roman, quand même. Le premier tiers, même. Hein. On y reste assez longtemps et on explore ce Paris de la guerre, de la Première Guerre mondiale. On parle souvent du front, on connaît bien les tranchées et tout ça, on parle moins de la base arrière. C'était quoi Paris en 1916?
Paris en 1916, il faut déjà imaginer qu'il n'y a pas d'hommes jeunes. Ils sont tous partis au front. Donc déjà, ça fait un choc. L'autre est visuel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui ont des robes de deuil. Donc on a la présence assez écrasante de la guerre. Mais ce qui est assez fascinant dans ce Paris-là, ce que moi j'ai découvert là, justement à travers ce roman, c'est le nombre incroyable de combines, de petites arnaques, oui, autour du patriotisme pour arriver à survivre. Parce que bon, la guerre crée des conditions assez difficiles, même à l'arrière.
Et alors justement, c'est ça ce qui est bien fait dans le roman aussi, c'est qu'on a cette vie de ceux qui ne sont pas mobilisés, qui alternent avec la vie des soldats qui, eux, sont dans la cruauté pure de la guerre. Là, c'est vraiment le centre de la guerre et on alterne comme ça. Ça crée une sorte de contraste terrible, mais j'imagine que c'est le moteur du roman aussi, de passer de l'horreur de la guerre, la légèreté du théâtre, d'une certaine manière.
Tout à fait, c'était l'idée. C'est-à-dire, l'idée, c'était la rencontre entre deux mondes qui n'ont rien à voir ensemble. Et en particulier, je dirais encore plus la Comédie française, qui était vraiment un monde. Faut imaginer ce que c'était à cette époque-là, c'est-à-dire c'est les stars de l'art, enfin de la culture. Et donc, du coup, elles arrivent vraiment avec une vision chevaleresque, romanesque de la guerre, comme on a pu la faire peut-être au XVIIe ou XVIIIe siècle, la guerre en dentelle. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de totalement décalé. Et c'est cette rencontre qui m'a intéressé, parce que c'est vraiment un choc pour des deux côtés, parce que pour les soldats aussi, cette rencontre avec le monde du théâtre est un choc, parce que ça leur rappelle qu'il y a une autre vie et qui continue ailleurs. Et c'est vraiment une révélation aussi pour eux.
Oui, c'est quand même aussi un hommage à la fiction et aux rêves que procure l'art, finalement, et le théâtre en particulier, en l'occurrence. Mais il y a de ça dans ce livre aussi.
C'est complètement ça. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment... on a vécu là, ces dernières semaines un confinement où on a entendu tout d'un coup beaucoup d'appels à la culture, à la nécessité de l'art, des chanteurs ont chanté pour les infirmiers, etc. C'est exactement ça, l'histoire du théâtre aux armées, au front. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'art réveille une part d'humanité qui s'est éteinte, ou qui est en tout cas en sommeil chez les soldats. Et les récits qu'on peut avoir, les journaux, notamment des comédiennes qui ont été versées au fond de la Comédie française, on voit ça, c'est-à-dire elles racontent ça, c'est-à-dire elles sont touchées, bouleversées par le fait que la plupart sont des habitués des planches, et donc elles sont blindées, elles ont l'habitude des réactions du public. Mais là, c'est un public qui tout d'un coup redécouvre la vie grâce à l'art. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort.
Et puis alors c'est un roman guerrier quand même dans tous les sens, puisque il y a aussi des sortes de guerres et des codes du théâtre. On se fait pas de cadeaux dans ce milieu-là.
c'est vraiment un milieu... je vais pas dire que ça continue, c'est, d'une certaine manière c'est encore vrai, j'ai pas me faire trop d'ennemis, mais c'est vrai que entre le théâtre de boulevard dans lequel joue mon héroïne et le grand théâtre classique qui est la Comédie-Française, c'est deux mondes totalement à part, avec une vision même de leur métier totalement différente. C'est-à-dire qu'il y a à la Comédie-Française l'importance de l'art transcendrait les réalités, etc. Alors que on est plus du côté du divertissement et du rythme et du mouvement dans le théâtre de boulevard.
Un mot quand même sur cette couverture magnifique qui est une photo en fait, une photo en noir et blanc. Je la décris pour les auditeurs. Il y a un officier, je pense, de la Première Guerre mondiale qui est debout et devant lui se tiennent accroupis deux personnages qui ont l'air amoureux. D'un côté, une femme très belle qui pourrait être Blanche et de l'autre, peut-être Antoine, éventuellement, qui sont donc deux des personnages du roman. D'où elle vient cette photo? Effectivement, elle est en couverture, donc moi je les ai eues dans la tête pendant toute la lecture du roman. C'est un des risques des couvertures photos, mais qu'est-ce que c'est que cette photo?
Alors c'est une photo qui vient du fond de la Comédie-Française, parce que il faut savoir que c'était quand même aussi une opération de propagande, et donc il y a beaucoup de journalistes qui ont suivi ces tournées, et donc c'est une photo qui a été prise sur le front, où on voit une toute jeune comédienne qui s'appelle Elisabeth Nizan. Et elle a une histoire particulière, cette jeune femme, parce qu'elle vient d'entrer à la Comédie-Française, elle est toute jeune pensionnaire, elle n'a jamais fait de tournée de sa vie, et sa première tournée, c'est pour aller au front. Et donc, elle a tenu un journal dans lequel elle a raconté cette aventure, qu'elle a versée ensuite aux archives de la Comédie-Française, et donc que j'ai pu lire. Et c'est très, très émouvant, parce qu'elle y découvre la vie. En fait. Et notamment, il y a une scène assez incroyable où elle se retrouve à la sortie d'une représentation dans la foule des soldats. Et c'est un régiment de Paris, c'est des titis parisiens, certains sont, on sent un peu voyous, un peu apaches. Et elle est très impressionnée, presque effrayée. Et tout d'un coup, il y a une espèce de fraternité qui se joue, où les apaches lui promettent de la protéger une fois qu'ils seront de retour à Paris. Et pour elle, cette jeune bourgeoise qui n'est jamais sortie de chez elle, c'est à la fois un choc et un émerveillement. Et là, on sent à travers ces lignes qu'elle comprend ce que c'est que le théâtre pour ces hommes, quoi.
Un peu comme Blanche Beaulieu, donc l'héroïne du Théâtre des Nuits de Karl Aderholt. C'est chez Stock, collection Arpège, Karl Aderholt, qui est donc premier lauréat du prix littéraire européen GMF. Félicitations, Karl Aderholt, et merci d'être venu.
Merci à vous.
Dans un instant, toujours des livres, nous allons écouter les premières pages du portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est livre.
Retour dans La Voix est livre, il est l'heure d'écouter un livre. Cette semaine, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est l'unique roman de l'écrivain publié en 1890, l'histoire d'un jeune homme très beau qui a peur, bien sûr, que sa beauté ne fane. Un jour, on peint un portrait de lui et le tableau vieillit à sa place et se couvre aussi des stigmates, des vices auxquels Dorian Gray s'adonne. Voici les toutes premières pages lues, attention, par Denis Podalydès.
L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses. Et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin du divan fait de sacs persans sur lequel il était étendu, fumant selon sa coutume d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d'un arbour, dont les tremblantes branches semblait à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur. Et de temps à autre, les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passaient sur les longs rideaux de tussors tendus devant la large fenêtre. Produisant une sorte d'effet japonais momentané, le faisant penser à ces peintres de Tokyo, à la figure de jade pallide, qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tentent d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles, cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé, faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. Et en face, était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain, et fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil. La meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry, languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable. » Ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre, en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci nulle part. Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'enverrez cela nulle part ? Et pourquoi, mon cher ami ? Quelle raison donnez-vous ? Quel singulier bonshomme vous êtes, vous autres peintres ! Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation. Aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part. » Car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. « Je sais que vous rirez de moi, » répliqua-t-il, « mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. » Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. « Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. » « Trop de vous-même. Sur ma parole, Basil, je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme du charbon, et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose. Car mon cher, c'est Narcisse lui-même. Tandis que vous, il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste, mais la beauté, la réelle beauté finit où commence l'expression intellectuelle. L'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face. Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout nez ou tout front ou quelque chose d'horrible. Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'Église. Mais dans l'Église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de 80 ans ce qu'on lui a appris à dire à 18, et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. « Votre mystérieux jeune ami, dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement, n'a jamais pensé. Je suis sûr de cela. C'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basile. Vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. »
Le portrait de Dorian Gray, donc, c'est à lire ou à entendre. Dans un instant, nous partons à la découverte de la bibliothèque de Franz-Olivier Gisbert. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre, c'est le moment d'aller visiter une bibliothèque. C'est un écrivain journaliste, ou l'inverse, même s'il n'aime pas cette formule. Il vient de publier Dernier été chez Gallimard. Chez lui, donc forcément, je m'attendais à trouver et des essais et des romans. Et ben voilà. Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Je ne sais pas trop par où commencer pour tout vous dire, parce que, évidemment, et je m'y attendais un peu, il y a des montagnes de livres partout. Alors, ils sont bien rangés. Là, on est dans un salon.
Il y a deux autres maisons. Hein.
Ah oui, il y a deux autres saisons.
Pas pareil, ouais.
Donc il y a encore des montagnes de livres là-bas, j'imagine.
Ouais.
Mais là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de livres. Il y a deux pièces en enfilade. Là, on est dans une sorte de salon. Il y en a un juste derrière où il y a encore des livres. Mais juste avant, dans l'entrée, comme chez beaucoup de journalistes, il y a, quand je disais montagne, ce n'est pas vraiment une façon de parler. C'est-à-dire qu'il y a une colline de livres qui sont dans l'entrée, tous empilés les uns sur les autres. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est quoi ? C'est des livres qui partent, ça ?
Ouais. Oui, tous les ans et demi, comme ça, il y a une espèce de, on pourrait appeler ça une tuerie, quoi, c'est-à-dire des livres dont je décide de me séparer. C'est compliqué parce que souvent, j'hésite.
Oui.
Ouais, devant chaque livre, j'hésite. Mais je ne peux pas garder tout. Puis en plus, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent parce qu'il s'écrit plein de choses. Et puis parfois, on découvre aussi des classiques. Il faut faire de la place. Donc, j'écarte. Et contrairement à beaucoup de mes petits collègues, je ne les vends pas. Donc, vous ne les retrouvez pas sur les quais. Ou si parfois, vous trouvez un livre qui m'a été dédicacé sur les quais. C'est pas moi qui l'ai vendu, c'est un connard à qui je l'ai prêté, qui l'a filé à un autre connard.
Qui l'a revendu.
Qui l'a revendu, parce que moi, je ne fais pas ça. Au contraire, je le donne. Ça va soit en Afrique, beaucoup, Afrique francophone, soit dans les prisons, soit dans des centres de handicapés aussi. Enfin, il y a des tas de gens qui en profitent, parce que ça dépend des fois.
Je ne donne pas de nom, mais celui-là, vous allez le garder, Franz.
Ah bah, c'est-à-dire le problème.
Celui-là, vous ne pouvez pas l'envoyer. Celui-là, c'est magnifique. On peut pas le sortir.
Je l'ai lu, j'ai trouvé très bon.
Bah alors, pourquoi vous l'envoyez ?
C'est vrai
Donc, on peut le dire, c'est Miguel Bonnefoy, Sucre Noir.
Oui, vous avez raison. Je l'avais lu, j'ai trouvé très bon. En poche, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est très compliqué parce que quand je m'en sépare, justement, je suis là pendant... Parfois, ça peut durer une minute. Ah, je ne sais
Non, mais je vois très bien.
Ah, oh, quand même. Et puis, je vais peut-être... Parce que moi, je suis un gros avaleur de livres, comme tous les insomniaques, il faut s'occuper. Je me réveille tôt le matin. Soit j'écris, soit je lis. Parfois, je fais les deux.
Ah, parce qu'il y a des trucs magnifiques.
Ah oui, bien sûr. Bah, oui.
Là, il y a une biographie, alors, ça, je peux le dire, non ? De Giordano Bruno.
Ah oui, formidable, formidable.
Qui est donc
alors,
moine...
Je vais dire un secret.
Qui est sur le Campo dei Fiori à Rome,
formidable.
En statue,
c'est une de mes...
avec sa capuche. Là.
Alors, c'est un de mes héros personnels. Il fait partie de mon petit panthéon personnel. Je le cite souvent, d'ailleurs, dans un livre.
Vous nous racontez
la
son histoire rapidement.
La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Bah, c'est un personnage extraordinaire, parce que c'est un hérétique au départ. Hein. Il a été brûlé. On lui a même cloué la langue pour qu'il ne puisse pas parler ou profaner, etc. Et il a fait toutes les religions. Il a été saqué de partout. Quoi. Il a été protestant à un moment donné, calviniste, enfin, rejeté par tout le monde. Et puis, à un moment donné, bon, le tribunal de l'inquisition s'en est occupé. Et c'est une figure mais incroyable. Et puis surtout, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il découvre, si vous voulez, les exoplanètes. Bon, c'est une sorte d'intuition. Je ne crois pas que c'est vraiment une découverte scientifique. Mais voilà, il voit des mondes derrière notre monde. Enfin, c'est un personnage, Giordano Bruno, ça fait partie de mes héros. Mais alors, le petit secret, c'est quoi ? Ben, j'en ai un autre.
Ah ben voilà,
oui,
il y a ça aussi, quand on est en double, c'est plus facile.
Oui, voilà, bien sûr, il est en double, donc je me suis dit, je ne vais pas garder les deux, puis il y a quelqu'un qui va en profiter, puis c'est un très bon livre, effectivement.
Ça me fait penser, Giordano Bruno, alors je ne vais pas vous comparer quand même à Giordano Bruno, il ne faut pas exagérer, mais quand vous dites qu'il s'en prenait plein la gueule de partout, vous, parfois, quand je vous vois à la télé, ou que je vous entends à la radio, ou dans les débats publics, je me dis, mais quel plaisir il prend à se prendre des coups comme ça. Parce qu'évidemment, quand on rentre dans ces polémiques-là, actuelles, il n'y a que des coups à prendre, finalement. Vous en donnez beaucoup, attention, mais...
Oui, j'en donne, mais...
Vous ne dites pas parfois, j'en ai marre de tous ces trucs-là, de me faire... de me battre...
Non, vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment ma vie. C'est-à-dire que je suis un peu horrifié par le système dans lequel nous vivons, le système intellectuel, c'est-à-dire où tout le monde doit dire systématiquement la même chose sur tous les sujets, ce qui est effrayant, quoi. Ça rappelle un peu la période de l'Inquisition. On parlait de Giordano Bruno, c'est quand même ça. Il a été brûlé, quand même, dans des conditions, mais juste épouvantables, torturé par l'Inquisition... auparavant, etc. Et aujourd'hui, vous avez le même système, en fait. Il ne faut pas sortir des clous, sinon c'est très grave. Donc ça, je ne supporte pas ce système. Je viens, je raconte mes deux, trois trucs, et je repars, et je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, j'ai des menaces de mort sur Twitter, tout ça. Je m'en fous. Et je ne vais pas pleurnicher comme certains en disant « Oh là là, on m'a menacé de mort ». Non, non, je m'en fous totalement. J'ai une forme de mépris, d'indifférence. Et en même temps, tout ça est sublimé par la joie de vivre. Parce que je suis un optimiste, je rigole tout le temps, et voilà, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il n'y a pas, comment dire, oui, il faut pas se prendre au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux. Et surtout, il y a des choses que j'ai envie de dire. Je trouve ça incroyable qu'on puisse pas les dire ou que certains aient peur de les dire. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est ça, dans la société dans laquelle nous installons, la société intellectuelle dans laquelle nous sommes entrés maintenant, c'est le règne de la peur. J'ai connu ça. On a connu ça au temps du communisme et dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, c'est une autre forme de tyrannie douce, évidemment. C'est pas encore un régime policier, mais on se dit ça va peut-être finir par venir. Où voilà, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela, il faut pas dire non. Et en plus, moi qui aime fondamentalement la littérature, c'est le domaine des fous, des irresponsables. Tous les héros de ma vie, les Antonin Artaud,
ah bah justement,
tout ça, ce sont des dingues.
Il y en a qui sont dans les livres élus.
Thompson,
qui reste.
Pour moi, c'est tout ça, c'est des modèles quoi. Et ils sont des têtes brûlées. Ce sont des gens qui ont pas peur. Et je crois que la base de tout, de toute façon, quand on est écrivain, il faut pas avoir peur.
Ouais, bon alors vous êtes allé trop vite, Franz, parce que là. On va les reprendre un par un, parce que je ne sais pas par où commencer, mais je vois quand même deux exemplaires de l'archipel du Goulag. Ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire, l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Dédicacé ?
Non, parce que je l'ai rencontré, évidemment. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie.
Tu peux aller voir ou pas ?
Je l'ai rencontré. Wow, c'est une dédicace
haut,
un peu...
Il faut un escabeau, là je suis sur un escabeau.
C'est un peu court, c'est un peu court.
C'est vachement haut.
Vous l'avez, sa petite dédicace, mais elle est un peu laconique. Hein.
Pour Franz-Olivier Gisbert, et après c'est quoi ? C'est en russe ?
Mais je sais pas, c'est un truc russe que j'ai pas compris.
Et ça vaudrait peut-être le coup de le faire traduire.
C'est de 92.
Hein.
Bon, ça y est.
Je sais qu'on va trouver d'autres dédicaces dans cette bibliothèque.
Il y a tout, évidemment.
Vous avez ce côté fétichiste quand même avec les grands génies comme ça, d'avoir des signatures,
oui,
un autographe.
Oui. Évidemment, quand on les a rencontrés, qu'on les a aimés surtout. C'est les écrivains que j'aime. C'est les autres, j'en ai rien à foutre. Alors, il y a des écrivains que j'ai aimés, qui m'ont accompagné tout au long. J'ai une passion pour le Clésio, bon, qui est un ami, mais qui, en plus, pour moi, est un écrivain majeur. Et je me régale à chacun de ses livres. Et donc, il y a tous les Clésio. Il y a Michel Déon aussi, qui est un...
Ah oui, vous avez la collecte.
Oui.
Et les Pléiades et tout.
Et Julien Green, je le connaissais vraiment bien. C'était un peu comme le grand-père de la famille. Il venait au déjeuner du dimanche.
Ah bon, mais
et,
pourquoi
bah, parce que comme ça, on avait énormément sympathisé. On était...
À quel endroit?
J'ai fait sa connaissance dans les débuts des années 80, fin des années 70 et début des années 80. Et puis, j'ai publié mon premier roman en 82. Il m'invitait à déjeuner et il s'est foutu de ma gueule en me disant... je me souviens encore, c'était avec ce petit truc, un petit ton un petit peu précieux. On dirait un Mauriac. Alors, j'ai dit, quoi, ça veut dire quoi ? Et j'ai compris que c'était pas gentil. Et en fait, il me prétendait que c'était un livre fabriqué. Enfin, il prétendait, il avait raison. J'avais fait ça. Il me dit, vous avez fait des fiches ? Oui, je dis, oui. Les romans, il ne faut pas faire des fiches. Il faut que les personnages soient vivants, il faut les suivre. Et après, voilà, je me suis inspiré de sa méthode. Et il m'a beaucoup accompagné. Je dirais que c'était pour moi un maître. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a pris en main. Vous savez comment on dit certains peintres, là, ils forment des autres peintres.
Un apprenti, quoi.
Et ben, moi, j'étais comme ça, un peu sous sa coupe.
Un disciple.
Voilà, il lisait, il disait non, mais c'est pas comme ça. Et puis là, voilà. Et en fait, il m'a appris une technique, celle que j'emploie, et qui fait qu'effectivement, écrire est un pur bonheur, un pur régal. Quand j'entends
mes copains
écrivains qui me disent... Oh là, l'angoisse de la feuille blanche. Oh là là, qu'est-ce que je souffre. Moi, je dis, connard, t'as qu'à pas écrire. Si ça fait autant de mal. Moi, j'adore écrire. Et ça, c'est grâce à Julien Green. Parce que je voulais être écrivain, mais il y a une souffrance quand on écrit. Je ne veux pas dire le contraire. C'est-à-dire, il y a tout un boulot après quand on a.
Surtout un livre très personnel comme L'Américain, par exemple.
Oui, mais tout ça, c'est plus facile parce que c'est un livre que j'ai pas écrit. J'écris ça pour mes enfants.
C'était plus ou moins autobiographique.
Totalement, à 100%. Et j'étais, comment dire, c'était mes souvenirs.
Avec des choses très intimes. C'est en ça que je parlais de souffrance.
Oui, mais je n'ai pas souffert en écrivant ce livre. C'était un peu pour. À un moment donné, j'étais très malade. Voilà, j'ai un cancer. Je lui ai dit, tiens, voilà. Ça, c'est pour le message pour mes enfants. Regardez le père que j'ai eu. Eh ben, j'aime mon père et je regrette de ne pas, pas avoir communiqué avec mon père, de jamais lui avoir pardonné les fautes énormes qu'il avait commises dans mon enfance, c'est-à-dire sa violence physique par rapport à ma mère, pas par rapport à moi, parce que moi, bon, d'une certaine manière, je considérais que je le méritais parce que je cherchais beaucoup mon père quand j'étais jeune. Mais donc, j'écris ce livre, en fait, vite. En revanche, vous savez, les grosses sagas, les gros livres qu'on écrit, comme par exemple Le Schmock ou L'Arracheuse de dents, ou aussi La Cuisinière d'Himmler, sont des livres... Bon, je les ai écrits plus longs, Et comme je respecte beaucoup le lecteur, je suis toujours en train de couper. Dès que j'ai fini, il faut couper, il faut couper. Il faut enlever les adjectifs, il faut réduire, il faut, etc. Et donc, cette période-là est toujours une période de souffrance. Mais la période d'écriture elle-même, j'écris dans la joie, mais je me marre. Je rigole même des conneries que j'écris.
Mais c'est quoi la technique de Julien Green, alors ?
Eh bien, le personnage est en soi. Il faut qu'il vous habite. Il rentre dans la tête. Et en fait, c'est lui qui parle. Et on le voit. Et ça va très loin parce que parfois, j'ai l'impression de peindre. Par exemple, les paysages, je les vois. Vous voyez, je suis complètement dans la tête. Et le personnage, pour moi, il est vivant.
Bon, je vous pose la question pour le principe, mais c'est quoi ce que vous prenez ? Lequel de ces livres-là vous prenez si ça brûle ? Et ne me répondez pas que vous emportez le feu, comme Cocteau disait. Qu'est-ce que vous emportez comme livre ? Vous avez le droit d'aller à deux livres. Sinon, après, c'est foutu, vous le savez.
Il y a une phrase absolument géniale que j'ai entendue dans la bouche de Giacometti. Il la répétait tout le temps. Il était très fier de ça. On lui posait souvent la question, d'ailleurs, parce qu'il avait dit, ça a choqué.
Il va botter en touche, tu vois. Julien, il va botter en touche.
Si votre maison brûle, il y a un tableau, il y a un chat, qui allez-vous sauver ? Et il répondait toujours sans hésiter, le chat. Et je crains que je fasse la même chose. C'est-à-dire, le livre, j'essaierai de le retrouver d'une manière ou d'une autre. Et alors maintenant, grâce au numérique, grâce au digital, les livres anciens introuvables sont tous trouvables. Et on peut les avoir pour que dalle. Donc, j'ai plus ce rapport que j'aurais pu avoir peut-être il y a 20 ans, où quand on avait un livre rare, c'était quelque chose de sacré. Pour moi, il est plus sacré parce qu'on peut le retrouver. Mmh. Et donc, je n'ai pas de problème aussi pour avoir des classiques, par exemple, qui ne sont pas publiés. Il y a plein de livres comme ça qui ont totalement disparu de la circulation et qu'il faut à tout prix lire. Je n'ai aucun problème parce que je sais que je les trouverai facilement en numérique. Et donc, ça ne me gêne pas.
Oui, mais attendez, parce que vous m'avez dit avant qu'on ouvre les micros que vous aviez des lettres de Jean d'Ormesson. Ça, vous les laissez brûler, tant pis.
Ah ben je serais malheureux, mais oui, bien sûr, parce qu'il était très... Là aussi, c'était quelqu'un de généreux, contrairement à ce qu'on pouvait raconter. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Mais quelque chose qui me frappait, c'est que quand il lisait les livres, souvent, il n'a pas fait pour tous les livres. Mais je me souviens pour La cuisinière d'Himmler, notamment, parce que ça n'allait pas très bien à l'époque, la santé. Et il m'écrivait, je ne sais pas, je dois avoir 5, 6, 7, peut-être une dizaine de lettres au fur et à mesure de l'intrigue. Avec des commentaires,
ah oui,
très drôles.
Commentaire.
Ah oui, puis il avait un petit côté prof, un peu, de temps en temps, il se foutait de ma gueule. Et parce que tout ça était drôle, c'était quelqu'un qui riait tout le temps, comme moi, c'est pour ça qu'on s'entendait bien. Et c'était généreux, quoi. C'était une merveille d'homme, bien sûr. Mais il y a plein d'écrivains comme ça. C'est pas uniquement un monde, vous voyez, de personnages vaniteux. Il y a plein de gens comme ça, qui ont envie de partager, qui ont envie de vous aider à grandir.
Et vous prêtez des livres ? Vous savez que si vous les prêtez, c'est que vous les donnez.
Oui, c'est ça, c'est plutôt comme ça. Oui, je prête volontiers, mais je sais que je donne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des livres que je ne donnerai pas. Vous voyez, des livres... Oui, des livres dédicacés, par exemple. Oui, je considère que, comment dire, ça peut être qu'à moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
De certains auteurs.
Oui, de certains auteurs, ça vaut rien, c'est pas le souci, c'est pas un problème d'argent. Souvent, je dis, une fois, ça m'est arrivé, d'ailleurs, c'est un copain, en plus, il avait les moyens, et je lui dis, attends, il n'y a pas de problème, non, je te le prête pas, hein, j'ai pas envie, mais si tu veux, je te l'achète. voilà, c'est ça, et ça vaut pas, de toute façon, c'est pas un problème de... Vous voyez, c'est juste parce que on a le sentiment, si vous voulez, pour moi, les livres sont des amis, et mes amis sont avec moi. Et j'ai besoin de les avoir dans toutes mes maisons, dans tous mes lieux. Je ne me déplace jamais, d'ailleurs, y compris dans un hôtel perdu, sans 3-4 bouquins. Alors, j'ai mon application Kobo, hein, comme tout le monde.
Je ne les lirai pas forcément, mais ils sont là.
Je peux les lire sur Kobo, mais j'aime bien les lire aussi. Et c'est toujours souvent le Gai Savoir de Nietzsche, parce que je vais lire 2-3 pages, les Pensées de Pascal.
La poésie.
La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Ah non, mais bien sûr. Les poètes d'Aragon, que j'ai dédicacés.
Hein ? Ah oui.
Ben oui, il me l'a dédicacé, Aragon.
Évidemment, il y a une collection.
Ben oui, oui, bien sûr. Aragon, c'était. Il était incroyable parce que quand on avait une interview, un petit journaliste comme ça, qui venait de sa province, Paris-Normandie, on s'asseyait, on, là, comme ça. Brusquement, il se levait, il lisait, il déclamait ses poèmes, et ça pouvait durer une heure et demie. Et de temps en temps, mais je ne connaissais pas ces tendances à l'époque, il y avait Elsa Triolet qui poussait légèrement la porte, qui regardait ce qui se passait et qui refermait. Et il est là, il me tournait autour et il lisait, il déclamait. Et pour moi, c'est un poète, mais c'est, moi, je suis mais en admiration totale. Aragon, pour moi, c'est le grand poète. Et je ne peux pas, par exemple, Second Intermède, qui est son poème, un de ses poèmes phares des poètes, c'est un poème, je lis souvent à haute voix. Pendant le confinement, je lisais souvent à haute voix, Second Intermède.
Tout seul, quoi.
Ouais, et je pleurais. à la fin, je pleurais tellement c'est beau.
Et vous en connaissez par cœur ou pas ? Ou vous les préférez lire ?
Non, je préfère, parce que sinon, c'est...
Vous ne l'avez pas, là, non ?
Oui, bah, je vais vous le trouver. Tiens.
Ah, c'est une belle édition, en plus, Gallimard. Ah, à Franz-Olivier Gisbert.
Pour ses 22 ans.
Pour ses 22 ans. Beau cadeau d'anniversaire.
Bon, second intermède. Laissez venir cette mer haute et lente. Laissez grandir en vous comme une plante. Ce doux bonheur facilement brisé. Laissez la force aboutir au baiser. Laissez former le chant dans votre bouche. La main frémir de la main qui la touche. Et regardez dans vos miroirs troublés. Levez en vous la jeunesse du blé. À tous les printemps, printemps qui ressemblent. Tourne vers moi ce visage qui tremble, etc. etc. Et alors la fin. Tout peut changer de sens et de nature. Le bien, le mal, les lampes, les voitures. Même le ciel au-dessus des maisons. Tout peut changer de rime et de raison. Rien n'est plus ce qu'aujourd'hui nous sommes. Tout peut changer, mais non la femme et l'homme. Waouh.
Hein ? Merci pour ça, Franz-Olivier. Et on vous laisse au milieu de tous vos amis. Donc.
Merci, Aragon.
À bientôt.
Europe 1. Franz-Olivier Gisbert, donc, merci à lui qui publie Dernier été chez Gallimard. Dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Et il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies. Avec nous cette semaine, Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson et Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Salut Nicolas. On commence avec vous Thibaut, vous êtes d'humeur poétique aujourd'hui.
Exactement.
J'adore.
Avec Poème et Poésie de John Keats.
Ouais, haut de gamme, haut de gamme.
Ouais, complètement. Mais en fait, ça fait beaucoup de bien de lire de la poésie. On n'en lit pas assez. Je me suis dit, pourquoi pas. Je me relance dans du John Keats que j'ai découvert il y a très longtemps.
Et
en
John fait, Keats, K-E-A-T-S.
Ouais, exactement. Qui est un Anglais, qui était un confrère, consoeur de Lord Byron, de Shelley. C'est un peu toute cette veine romanesque. Parce que, par exemple, Shelley fait Frankenstein en roman. John Keats, en poème, il fait Hyperion. Incroyable, d'ailleurs, c'est un très long poème. C'est épique, même je pense que le mot est très bon, et vous découvrez une littérature très différente, une poésie très différente. Vous êtes emmené dans d'autres planètes. C'est de la poésie SF, je ne connaissais pas, c'était incroyable. et John Keats, c'était un type qui est mort très jeune, et il le savait qu'il allait mourir tôt. Il y a une sorte d'urgence dans ses poésies que j'aime beaucoup. Même quand c'est long, il faut tout dire, tout de suite, tout le temps, de manière très belle. Et c'est ça que moi j'adore, c'est ce besoin de dire des choses belles, cette recherche de beauté. D'ailleurs, il se réfère énormément à la mythologie grecque où la beauté avait une importance particulière. Et donc, c'est toujours un vrai plaisir à découvrir autant ces petits poèmes que ces longs poèmes, parce qu'il y en a qui sont vraiment très longs. Ça fait beaucoup de bien, entre deux romans, de lire un peu de poésie et de découvrir et redécouvrir John Keats. Franchement, je conseille à tout le monde d'ouvrir ces poèmes. Il y en a qui vont vous toucher très profondément, d'autres qui vont vous laisser neutre, mais c'est ce qui fait que la poésie, c'est beau.
Là, on a envie d'en entendre un quand même, Thibaut.
Hein. Ouais.
Il faut se lancer.
Alors, la mer de ma vie a été pendant 5 ans à sa marée basse. De longues heures, on laissait rouler le sable par flux et reflux. Depuis que je fus enlacé dans les raies de ta beauté, que je fus séduit par le dégantement de ta main. Et maintenant, je ne fixe plus le ciel à minuit, sans que m'apparaisse la lueur de tes yeux restée vivace en moi.
Superbe. Et donc, ça, c'est quelle édition ? Pauline Carayon, elle adore aussi.
C'est Poésie Gallimard.
Parfait. John Keats, recueil de poèmes. À vous, Pauline. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ?
Voilà. Alors, moi, ce sera un peu moins poétique, mais je l'espère tout aussi troublant. En fait, moi, je vais vous parler du nouveau roman d'Olivier Bruneau, Esther, qui est paru aux éditions du Tripode, qui nous propulse dans une dystopie où les humains côtoient les robots et les ont acceptés, que ce soit pour cuisiner, cultiver de l'herbe ou bien donner du plaisir. Bref, et donc dans un futur proche, l'État a disparu, il a été vendu. Les anciens fonctionnaires ont pu trouver, certains anciens fonctionnaires ont pu trouver une place dans une compagnie d'assurance où s'activent des VRP qui vendent voyages de rêve. Et autres services, même si vous avez perdu votre enfant, ils iront frapper à vos oreilles. Et donc, Anton, lui vit cette vie-là. Il est employé à la Générale et il mène une vie de famille qu'il considère comme morne. Hein. Et en rentrant d'un dîner avec sa femme, il découvre les restes d'une poupée robot, d'une love boat, dans une benne à ordures. et il n'arrive pas à masquer son trouble face à cette créature amochée, mais parfaite. Et en cachette, il va aller la récupérer, il va tenter d'avoir une discussion avec elle. Et parce que malgré lui, il ne peut s'empêcher de projeter des réactions humaines et sensibles à son égard.
Dans la machine.
Et il va s'occuper d'elle, il va lui redonner vie, il va lui demander de lui raconter son passé. Cette lovebot, on va dire, qui a été programmée pour donner du plaisir. Mais en fait...
Ça s'appelle Esther, j'imagine, c'est le titre du livre.
Tout à fait, Nicolas, tout à fait. et parallèlement à cette rencontre, du quatrième type, on va dire, Alice, le détective, mène une enquête sur l'homicide d'un homme dénommé Strauss, qui avait des mœurs assez particulières. Et on découvre que ces affaires sont liées. Mais la singularité du roman d'Olivier Bruno, c'est surtout réside dans ce rapport à l'instinct, à la morale, à la politique, qui est évalué un peu à l'aune de la confrontation homme-robot. Ce roman est écrit de manière ultra réaliste, et ça. Et en effet, on se pose plein de questions, en fait. Ce monde-là pourrait être le nôtre.
Ah bon. Fait penser au dernier roman de Ian McEwan, qui explore un peu le même sujet. Des robots qui ont l'air très, très humains, et un des personnages qui tombe amoureux d'un robot.
Ouais, mais c'est
un peu et ça. Un robot qui tombe amoureux d'un des personnages, surtout.
Il faut lire le bouquin.
Il faut lire donc... Esther d'Olivier Bruno, c'est au Tripode. Et donc, les poèmes et poésies de Keats chez Gallimard, le conseil de Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Merci à tous les deux. Dans un instant, toujours des livres, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez un album intitulé Yukio, l'enfant des vagues de Jean-Baptiste Delamo.
Je vous emmène au Japon, au sud de l'archipel exactement. Un écrivain en manque d'inspiration décide de partir quelques jours sur une petite île sauvage. Il prend ses quartiers dans une auberge, commence à voir ses petites habitudes. Tous les matins et tous les soirs, il se balade sur la plage. Et à chaque fois, il croise une femme mystérieuse qui fixe étrangement la mer. Il s'intéresse à l'histoire de cette femme, Mayumi, et de son petit garçon, Yukio, un petit garçon très, très fragile.
C'est-à-dire très fragile.
À sa naissance, Yukio était si petit qu'il tenait à peine dans la paume d'une main. Les médecins avaient d'abord pensé qu'il était condamné. On avait même construit un mini-cercueil en prévision de sa disparition. Mais Yukio réussit à grandir contre toute attente. Alors toujours à l'écart des jeux des autres enfants, il craignait en effet de se cogner. Pour essayer de le remplumer, les médecins conseillèrent alors à sa maman de l'emmener au bord de l'eau. Au début, le petit garçon jouait sur la plage, timidement, jamais trop loin de sa maman. Puis, un jour, il osa s'aventurer dans l'eau. Lui qui était si fragile sur la terre n'avait absolument pas peur de l'eau. Il apprit à nager en quelques mouvements et plus les jours passaient, et plus sa mère avait du mal à le faire sortir de l'eau. La suite, c'est Léon qui vous la lit.
Au fil des jours, les suppliques du garçon devinrent plus pressantes. Après quelques heures passées hors de l'eau, Yukio suppliait sa mère de le ramener à la plage. Il respira avec difficulté, se tournait et retournait sur son futon en gémissant. Ne sachant que faire, Mayumi remplissait alors un baquet d'eau froide dans lequel elle plongeait Yukio. La fièvre tombait enfin, le garçon finissait par se calmer et par s'assoupir. Une nuit, tandis qu'elle veillait à son chevet, Mayumi vit quelque chose briller dans le dos de Yukio. C'était une petite écaille parfaitement ronde et lisse d'un beau gris argenté.
Et ces écailles vont prendre de plus en plus de place sur le dos de Yukio. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir la suite.
Question rituelle, Victor, à partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
Alors vous pouvez vraiment le lire à vos enfants dès le plus jeune âge, à partir du moment en fait où leur concentration est suffisamment soutenue pour bien écouter l'histoire. C'est un très beau texte, bien écrit, très poétique, un texte directement inspiré des légendes traditionnelles japonaises. Un conte merveilleux, servi par des illustrations très soignées, des aquarelles tout en relief, des jeux de lumière sur la mer, bref... Vous l'avez compris, j'ai eu un immense, immense coup de cœur pour ce livre.
Et on rappelle le titre, Yukio, l'enfant des vagues, de Jean-Baptiste Delamo, illustré par Karine Desais. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci Victor, à la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, à Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. À la semaine prochaine pour d'autres livres.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.